VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. En RCA, 3152 ex-combattants ont été enregistrés en un an par le programme de désarmement et réinsertion dans la vie civile après les violences qui ont ravagé le pays en 2013. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un porte-parole de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, Vladimir Monteiro. 2072 hommes et 450 femmes ont déjà bénéficié du pré-DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, a-t-il souligné. Selon un responsable DDR de la MINUSCA, Khaled Ibrahim, environ 7000 personnes au total pourraient participer à ce programme de réhabilitation. La MINUSCA précise qu'elle a déjà déboursé 6 millions de dollars pour la mise en œuvre du programme qui doit permettre aux ex-combattants de revenir à la vie civile avec une activité rémunérée. Lancé en juin 2015 à Bangui et étendu depuis à 8 autres localités, le pré-DDR va être poursuivi par un programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement organisé par un décret présidentiel centrafricain du 2 juillet. Réchauffement entre le Tchad et Israël. Un haut diplomate israélien a récemment rencontré le président tchadien Idriss Déby Itno. Première rencontre de haut niveau entre les deux pays depuis plus de 40 ans, a annoncé aujourd'hui un porte-parole israélien. Ce dernier a précisé qu'il ne s'agissait pas à ce stade de discussion sur un éventuel rétablissement des relations diplomatiques bilatérales rompues par le Tchad en 1972. Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a exhorté jeudi son rival, le vice-président Riek Machar, à rentrer dans la capitale Djouba. Il avait fui après de violents combats entre leurs troupes respectives. Objectif de cet appel, relancer le processus de paix, John Lyndon.
J'appelle Riek Machar à rentrer à Djouba pour que nous puissions poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix. Comme vous le savez, cet accord a besoin de nous deux pour être appliqué, a déclaré Salva Kiir dans un communiqué lu à la presse. Il a répété être à 100% déterminé à assurer la sécurité de Riek Machar à Djouba et a dit attendre une réponse dans les 48 heures. Riek Machar a quitté Djouba après les combats meurtriers qui ont opposé du 8 au 11 juillet ses troupes à celles de Salva Kiir. Ces violences ont fait au moins 300 morts et ont mis en péril le fragile accord de paix conclu en août 2015 pour mettre un terme à une guerre civile débutée en décembre 2013. Avec cet appel, le président Salva Kiir paraît déterminé à capitaliser sur l'absence de Riek Machar et sur les fissures qui ont commencé à apparaître dans les rangs de l'ex-chef rebelle.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, calme précaire à Kidal, dans le nord du pays, théâtre de violents combats hier entre des éléments du groupe d'autodéfense Gatia de la coalition gouvernementale dite de la plateforme et des hommes du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCUA, qui fait partie de la CMA, l'ex-rébellion à dominante Touareg. Un élu local joué aujourd'hui par l'AFP a fait état de nouveaux combats ce matin, mais le calme est maintenant revenu, a-t-il souligné. La MINUSMA, la mission de l'ONU présente à Kidal, a confirmé hier soir qu'il y avait eu de violents affrontements entre des groupes rivaux sans identifier précisément les mouvements concernés et en soulignant que tous ont été signataires en mai-juin 2015 d'un accord de paix avec Bamako. Pour une analyse de la situation, Idriss Fall a joint hier à Kidal Amberi Agrissa, un notable Touareg et responsable au sein de la CMA.
Il y avait une tension, des tensions qui grandissaient, qui évoluaient de mal en pis. Il y a des nuits, il y a un élément de la CMA qui a été abattu par des éléments d'Atia. Ça a fait monter la tension. On pensait qu'on était sur la voie de l'apaisement. Tout d'un coup, dans cet après-midi, des tirs ont éclaté dans la ville. Au moment où vous me parlez, les combats n'ont pas cessé, même si l'intensité des tirs a baissé.
Al-Gabasak Intalla et le général Gambou avaient conclu un accord dimanche dernier à Niamey, non?
Oui, alors Bas et d'autres compagnons venaient juste de nous faire le compte-rendu de la réunion de Niamey. On venait de cette réunion-là. Quelques temps après, les tirs ont éclaté dans la ville.
Est-ce que ça signifie que cet accord il est devenu caduque ou bien?
Bon, quand il y a des tirs mûris comme ça pendant près de 2 heures de temps, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut valoir encore un tel accord.
Amberi Agrissa, un notable Touareg et responsable au sein de la CMA à Kidal, au Mali.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
À New York, les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont commencé jeudi le long et laborieux processus de sélection du successeur de Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies. Les détails avec Arzuma Compaoré.
Ce premier vote à huis clos et à bulletin secret sera suivi de nombreux autres pour départager 12 candidats, dont 6 femmes et 6 hommes. Parmi les figures de proue, la néo-zélandaise Hélène Clark, Susana Malcora, ministre argentine des Affaires étrangères, l'ex-président slovène Danilo Turk et le portugais Antonio Guterres, ancien patron du HCR. L'ambassadrice américaine Samantha Power a dressé un portrait robot parlant de quelqu'un doté de grandes qualités de dirigeant, d'une grande compétence de gestionnaire, attaché à la justice et aux principes des Nations Unies. L'ambassadeur français François Delattre a comparé cette sélection à celle du pape, la fumée noire et blanche en moins. Son homologue britannique Matthew Rycroft a plaidé pour un secrétaire général fort. Selon lui, il est grand temps pour une femme d'accéder à ce poste, en précisant que l'origine géographique est le critère le moins important. Le suspense peut durer jusqu'en octobre. Le choix final sera entériné par l'Assemblée générale de l'ONU et celui ou celle qui va succéder à Ban Ki-moon prendra fonction en janvier prochain.
On reste aux États-Unis. Dans son discours de clôture de la convention du Parti républicain jeudi soir à Cleveland, dans l'Ohio, le candidat du parti à la présidence, Donald Trump, a engagé un virage sécuritaire dans la campagne présidentielle américaine pour tenter de remonter son retard face à la démocrate Hillary Clinton, associée au bilan des années Obama. Le milliardaire new-yorkais de 70 ans a accepté hier soir la nomination comme candidat à la Maison-Blanche au dernier jour d'une convention d'investiture plutôt chaotique. Un sacre sans fausse note ni dérapage pourtant, qui tranche avec l'amateurisme occasionnel et la désunion qui ont produit polémiques et incidents toute la semaine à Cleveland. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à la convention, Idrissa Sedou Dia.
Friends, delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination.
Donald Trump, disant aux délégués à la convention du Parti républicain qu'il acceptait avec humilité et gratitude leur nomination pour la présidence des États-Unis. Il a ensuite prononcé un discours axé sur la sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis en se fondant sur de récentes attaques terroristes et actes de violence.
I have a message for all of you.
J'ai un message pour vous tous. La criminalité et la violence qui affligent aujourd'hui notre pays prendront bientôt fin. À partir du 20 janvier 2017, la sécurité sera restaurée. Monsieur Trump a ensuite cité des statistiques montrant, selon lui, la détérioration de la situation sécuritaire à travers le pays et il s'est autoproclamé le candidat de la loi et de l'ordre. Il a parlé d'une augmentation de 17% des homicides dans les 50 plus grandes villes des États-Unis et une augmentation de presque 50% du nombre de membres des forces de l'ordre tués par rapport à l'année dernière. Il a cité le meurtre de policiers à Dallas, Baton Rouge et dans d'autres parties du pays, ainsi que les actes terroristes à Orlando et San Bernardino, contre le marathon de Boston et un centre de recrutement de l'armée à Chattanooga, dans le Tennessee. Donald Trump a de nouveau dénoncé l'immigration illégale, soulignant qu'environ 180 000 clandestins avec des antécédents criminels, dont l'expulsion a été ordonnée, sillonnent en toute liberté le pays pour menacer des citoyens pacifiques. Il va construire son mur à la frontière, selon lui. En conclusion, le candidat républicain a encore promis:
We will make America proud again.
Nous restituerons à l'Amérique sa fierté, nous restituerons à l'Amérique sa sécurité et nous restituerons à l'Amérique sa grandeur.
God bless you and good night. I love you.
C'était Idrissa Sedou Dia à Cleveland, dans l'Ohio.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.